France Culture. Bonjour et bienvenue dans Être et Savoir, le magazine de l'éducation de France Culture que Perret Legras réalise avec Anthony Thomasson à la prise de son. Avril Ventura en est l'adjointe à la production. Apprendre comment montrer ce qui se joue à l'école primaire. Ce soir, nous sommes à l'école avec Claire Simon pour un documentaire lumineux, captivant et émouvant. Et vous, quel genre d'école primaire avez-vous fréquenté? Celle où nous convie Claire Simon, l'école Anton Makarenko d'Ivry-sur-Seine, est une école plutôt populaire en banlieue, avec des enfants en basket qui apprennent leur table de multiplication, les compléments d'objets directs et mille autres choses. J'y ai retrouvé beaucoup de ma propre école, une école de banlieue aussi avec une très très grande cour. Et vous aussi, vous serez plongé dans la réalité des élèves parce que pendant une heure 45, vous ferez 1m25 en effet en classe, dans la cour ou au gymnase. La caméra de Claire Simon est à hauteur d'enfant. Et ce que vous regarderez va vous emporter le cœur, croyez-moi. Tout le public est ému devant Apprendre, c'est le titre de ce beau film, je le rappelle. Titre parfait car Apprendre, c'est ce que tout le monde fait à l'école, où l'on enseigne et où l'on est apprenant. Mais c'est aussi, et on l'oublie souvent, mais pas dans ce documentaire, c'est apprendre ensemble dans ce lieu unique où soufflent les savoirs, notre école, l'école de la République. Alors je voudrais commencer par la première scène du documentaire, c'est la rentrée.
On a déménagé ici. Okay. Moi, j'ai pas toutes les fournitures. J'ai pas les fournitures.
Ne vous inquiétez pas, on va lui donner un sac avec des fournitures.
D'accord.
Il n'y a pas de problème. La ville, elle leur donne tout ce qu'il faut. Donc, il a juste besoin d'un cartable.
Oui, je l'ai déposé.
Oui, c'est pas grave. C'est pas pressé. On va lui donner un petit sac. Lui, il va en maternelle.
En maternelle.
D'accord.
Donc, du coup, je vais lui déposer là-bas aussi.
Mais je peux le garder.
Hein?
Ça y est. Je l'ai inscrit tout à l'heure. J'ai mis la fiche.
Ok, d'accord.
Donc, je vais te présenter ta maîtresse Amadou tout à l'heure.
Okay.
Et tu vas rester avec nous aujourd'hui et puis après pour un certain temps, ben pour toute l'année à l'école. Bienvenue à Makarenko.
Bienvenue à Makarenko. C'est vous, Bertrand Kiné, qui accueillez cet élève. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes donc directeur de l'école. Avec nous également Estelle Laveau, professeure des écoles.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous. C'était très très important pour moi d'avoir une enseignante ce soir. Et bonsoir Claire Simon. Vous êtes donc, je l'ai dit, cinéaste. Vous avez réalisé beaucoup de documentaires comme Récréation en 1992, c'est une cour d'école, c'est un documentaire qui a beaucoup marqué les esprits et qu'on peut toujours voir avec beaucoup de profit, je pense. Notre corps, sorti l'an dernier sur l'hôpital, Vous ne désirez que moi, c'est une fiction. Et puis je me souviens aussi d'un documentaire, Première solitude à Ivry, qui est sorti, vous venez de me le rappeler hors antenne, en 2017. C'est la rentrée, on part ensemble pour une année scolaire. Vous aussi, vous avez passé beaucoup de temps dans l'école Makarenko. Ma première question, c'est qu'est-ce que vous vous attendiez à trouver et qu'avez-vous trouvé finalement dans ce chemin?
Je ne sais pas si je m'attendais. D'abord, au début, j'ai commencé par les récréations parce que j'aime beaucoup les enfants entre eux. Quoique, le long de mes repérages, parce que j'ai visité plusieurs écoles, j'ai remarqué qu'en primaire, parce que récréation, dont vous venez de parler, c'était en école maternelle. Mmh. Et on ne voyait pas les enseignantes qui étaient au bord de la cour. Et moi, je les cadrais, on ne voyait pas leur visage, quoi. Parce que j'étais, comme on dit, à hauteur d'enfant. Enfin, en tout cas, c'était le point de vue des enfants. Alors que là, j'ai remarqué dans toutes les écoles où je suis allée que les enfants, ils allaient souvent voir les profs qui étaient là ou en disant « Ouais, ça s'est mal passé » ou « Il veut pas jouer avec moi » ou bien « Tu sais qu'il a fait ci et ça et ça ». Et donc, je m'étais dit « C'est très intéressant de voir ce rôle d'adulte-enfant que j'ai absolument pas traité dans récréation ». Et donc, à l'école Makarenko, la première fois que je suis arrivée dans la cour, il y a eu une scène extraordinaire. Mais comme j'ai oublié un mot de cette scène, je ne la raconterai pas. Mais évidemment, je me suis dit, voilà, ça, c'est génial. Et donc, c'est deux enfants qui sont venus voir un professeur. Et y en avait un qui se plaignait de ce que l'autre lui avait fait, etc. Et donc, ça s'est bien arrangé, quoi. J'étais vraiment intéressée par ce qui se passait en récréation. Évidemment, moi, j'espérais des grosses bagarres, quoi. Alors, Bertrand m'a tout de suite découragée, immédiatement, me disant, on a baissé la violence de 80% dans la cour. Bon, ben, moi, c'était une grosse déception, mais ça n'a pas empêché que j'ai continué à venir à l'école. Je me souviens, le premier jour où j'ai tourné, il pleuvait. Alors, il y avait plein de trucs intéressants, des belles choses quand même et tout. Et puis, au fur et à mesure que je filmais les récréations, un jour, par hasard, j'ai vu le professeur Mohamed Hammer, qui était avec sa classe dans la bibliothèque de l'école et qui choisissait tous des bouquins. Et j'ai dit, ah bon? Et il a dit, oui, on va monter pour faire le quart d'heure de lecture. Et je lui ai dit, mais est-ce que je peux venir avec vous? Et il m'a dit, oui, oui, avec l'ingénieur du son, Pierre Bompi. Et donc, on est monté, on a filmé le quart d'heure de lecture. Et j'ai trouvé ça d'une beauté extraordinaire, alors que jamais j'aurais... Je pensais que je n'étais absolument pas capable de filmer dans une classe. Et puis, j'ai dit, mais est-ce que je peux rester? Il m'a dit oui, oui, ok. Et donc, j'ai vu la passion sur le visage des enfants, ils veulent absolument comprendre, savoir et tout, et s'ils passent au tableau et que ça se passe pas comme ils veulent, ils sont torturés et tout. Et donc, j'ai compris qu'il se passait en classe quelque chose de très beau, vraiment. Pour chaque enfant, quoi. Il y en a qui s'en fichent, mais pas beaucoup. Je me souviens d'un garçon dans la classe de Mohamed qui s'appelle Tim, qui est roux. Alors évidemment, comme moi, je suis rousse, tous les roux, tout de suite. Voilà. Et Mohamed lui a dit, tu fais toujours la même erreur. C'est extraordinaire, non? Moi, j'étais scotchée, qu'ils sachent exactement toujours, alors qu'il y a quand même, là, ces deux classes, il y a le CE2 et le CM2. Oh là là, j'étais vraiment... Et donc, à partir de ce moment-là, comme je déjeunais avec les professeurs dans la salle des profs où chacun amène son manger, j'ai pu demander à chacun qu'est-ce que vous faites cet après-midi, demain matin, etc. Et donc, j'alternais les classes et les cours de récré.
C'est incroyable de comprendre que c'était pas votre projet principal de filmer la pédagogie. Et pourtant, elle est très présente dans le film. Et c'est ça qui le rend très précieux, à mon humble avis. C'est que on la voit. Et c'est difficile d'expliquer ce que c'est la pédagogie. On a pris un petit extrait, ben, justement, de la classe de l'enseignant dont vous venez de parler.
Non, c'est un sujet. Observe, c'est un verbe. Mon chien observe quoi? Les chats? Qui les chats?
Gloria, tu es d'accord avec lui?
C'est une terre. Voilà.
Suivante, Diane.
Le fleuriste vend quoi? Des fleurs?
Oui. Et donc, le complément d'objet, Diac, c'est quoi?
Des fleurs.
Des fleurs, très bien. Allez, Mohamed, tu fais la suivante.
Des tableaux de Picasso embellissent les murs embellissent les murs de ce musée.
Du verbe embellir. Et non, embellissez. Mais ça, il faut l'apprendre à l'école. Estelle Lavaux, je me tourne vers vous. Vous qui êtes enseignante bien dans le même établissement. Est-ce que vous y avez retrouvé, à travers les scènes, les diverses scènes qui sont filmées dans les classes et aussi en cours de sport, hein, par exemple, ce que vous faites vraiment, votre pratique d'enseignante?
Oui, 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 tout à fait. J'ai retrouvé exactement ce que j'avais envie de voir de l'enseignement et moi, ce pourquoi je suis devenue enseignante.
Parce que c'est difficile à expliquer ce qu'on fait quand on enseigne.
C'est très compliqué. Après, ce dont parlait Claire là, à l'instant, c'est le fait aussi que les élèves sont acteurs de leur apprentissage. C'est pas le savoir du maître à l'élève. Donc il y a une interaction qui fait que la pédagogie, elle est active. Et on a retrouvé, effectivement, enfin, je parle en mon nom, mais mes collègues aussi, le cœur de notre métier. Mais en... en plus joli. Parce que il n'y a pas que, effectivement, des réussites toujours, mais elle a su filmer et mettre à l'honneur les petites choses qui font que apprendre est primordial pour un enfant, et apprendre est primordial pour nous aussi adultes. Et elle a su mettre en valeur les valeurs de l'école publique.
Mais c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est que le film ne dit pas que ça marche à chaque fois, que c'est particulièrement efficace. En revanche, ce qu'on voit, et évidemment avec cette caméra placée à hauteur du visage des enfants, qu'ils soient debout ou assis, c'est leurs expressions, leurs gestes, la manière dont ils vont se tourner, dont ils vont se tenir, dont ils vont attraper leur crayon ou chercher leur gomme. Et c'est effectivement ça qui crée aussi une grande émotion, c'est qu'on s'y retrouve énormément, comme la recherche du COD d'ailleurs, Claire Simon.
Oui, je voulais dire que dans la classe d'Estelle, justement, dans le film, il y a une petite fille et il y en avait une autre. Quand je l'ai filmée, ça m'a fendu le cœur, quoi. Et on voit cette scène, tout le monde montre, Estelle dit des mots et les enfants doivent les écrire. Et là, c'est melon. Et Elisa et Estelle lui dit, mais ça commence par quoi, melon? Et elle dit un B et elle tient là-dessus. Et alors ensuite, elle arrive à l'écrire, etc. Et là, moi, j'étais bouleversée, quoi. Parce que cette petite fille, elle voulait bien faire et ça marchait pas, quoi. Et là, on peut rien. Et là, c'est terrible, quoi. Et je me souviens qu'Estelle me disait, moi, c'est les enfants qui ont le plus de mal qui m'intéressent le plus.
Oui, c'est pour ça, je pense qu'on enseigne dans ce genre d'établissement, nous on est en réseau d'éducation prioritaire, c'est des enfants qui ont effectivement plus de besoins que les autres, on le sait, et si on vient, c'est qu'on a cet engagement-là.
Bertrand Quinet, vous qui êtes directeur de cette école, je vous pose la même question qu'au tout début à Claire Simon, à quoi vous vous attendiez ? Quand on vient poser sa caméra dans une école de banlieue, en réseau d'éducation prioritaire, alors bien sûr, c'est Claire Simon, vous connaissez peut-être son travail, mais on se dit, voilà, on va montrer les difficultés, les problèmes, c'est souvent comme ça que les documentaires sont menés, et c'est pas ce qui ressort du film, même si ils ne sont pas cachés, ces problèmes.
Mais je crois qu'en réalité, si j'ai accepté, parce que c'était quand même un échange, c'est une proposition qu'elle faisait de venir, elle m'explique qu'elle veut voir comment ça se passe dans la cour, et essentiellement voir d'ailleurs les bagarres, c'est ce qu'elle explique au départ. Et en fait, je sens très vite que son regard, de toute façon, il va être bienveillant. C'est-à-dire qu'on va pas être dans, en fait, cette école, on va montrer après dans un documentaire que ça se passe mal, que c'est dangereux. Que... Donc, en fait, tout de suite, il y a une confiance qui s'instaure. Et quand elle me dit qu'elle va rentrer dans les classes, ça m'étonne pas plus que ça. Mais en ce qui concerne le résultat, évidemment, je n'avais rien prévu. Après, pour reprendre un peu ce que disait ma collègue, ce que j'ai vraiment découvert en regardant le film, c'est tous ces petits moments, effectivement, où tout à coup, on se connecte avec les enfants. Il y a quelque chose de regard qui se croise, de l'instant qui dure pas forcément très longtemps, où, en général, l'enseignant a questionné, et puis on est dans la recherche d'une réponse. Et en même temps, c'est furtif, mais c'est vraiment intense. Et Claire, elle a vraiment su capter ce moment. C'est quelque chose que nous, on oublie à la fin de la journée parce qu'un tel est tombé dans l'escalier ou l'autre n'a pas réussi à faire après autre chose. Enfin, il y a un tas de choses, un tas d'événements dans la journée qui vont parasiter ces petits moments-là. Mais on a eu beaucoup de retours des spectateurs qui ont vu le film et qui nous ont dit, voilà, des anciens enseignants par exemple, qui nous ont dit, mais je me souviens en voyant ces petits moments, pourquoi je suis devenu enseignant. Voilà, parce que ce rapport-là, il est unique, il est vraiment extrêmement important. Ce qui n'est pas facile dans cet exercice, c'est d'essayer de ne pas tomber dans un travers dans lequel on tombe assez souvent, malheureusement, mais ça, c'est peut-être l'idée du métier. C'est que l'école française, mais pas seulement, ça peut être l'école des sachants. C'est-à-dire que très rapidement, les enfants qui viennent à l'école comprennent que quand on leur pose une question, en réalité, il faut déjà avoir la réponse. C'est-à-dire qu'il faut déjà savoir avant de venir à l'école. Et ça, c'est perturbant pour les enfants. Donc, ce qui est intéressant, c'est de mener une pédagogie au sein de l'école où même ceux qui ne savent pas à l'avance ont les moyens, quand même, avec ce qui se travaille dans l'école, ou au matin, ou un peu avant, etc., de donner leur avis, et puis de chercher une réponse, et pas, ah ben en fait, moi je sais, lui c'est un bon élève, je sais qu'il va donner la réponse, et moi en fait je ne sais pas. Et je ne me sens pas à ma place dans cette école.
On cherche ensemble, ah, pardon.
Non, mais je voulais rebondir sur ce que bien disait sûr. Bertrand Quinet, parce qu'en fait, on a une collègue, enfin même plusieurs, hein, qui mettent en place justement sur cette de la pédagogie par le biais de la médiation culturelle. Sur le, c'est Serge Boismard qui a développé.
Ah, mais on va tout à fait en reparler de la médiation culturelle.
Ah, mais d'accord, ok, non, mais parce que Boismard, ça correspondait à ce que disait Bertrand.
C'est extrêmement intéressant.
Où l'enfant a besoin de prendre confiance en lui pour apprendre et savoir que lui aussi il peut apprendre, même si il ne sait pas ce que c'est qu'un COD, il peut savoir d'autres choses par le biais de la médiation culturelle.
Et Serge Boismard, qui est psychologue, un clinicien, oui. Qui a écrit La peur d'apprendre, on l'avait reçu il y a bien longtemps dans cette émission, et c'est toujours très intéressant de le lire. On est passé un peu vite sur cette séquence de rentrée, je voulais rester sur un point. Vous avez fait confiance à Claire Simon, on voit un élève dans cette scène qui vous fait confiance. C'est un film sur le lien, vous lui donnez la main, vous donnez la main tous les deux. C'est déjà quelque chose qui prend un petit peu du côté de l'émotion, cette petite main dans la vôtre, le fait qu'ils s'en remettent à vous, hein, et les parents aussi. C'est ce qui se passe dans les écoles populaires, cette extraordinaire confiance aussi qui est filmée, Claire Simon. Elle est très frappante, cette scène.
Oui. Je me suis dit en la filmant, oh, c'est trop sentimental.
Presque un peu, mais.
Et on sait pas mais dire. Amadou était tellement beau. Et puis, il y avait tous les enfants qui disaient bonjour à Bertrand. Là, Bertrand, il passait son temps à dire bonjour, 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 bonjour. Et après, avec le monteur, on rigolait parce qu'après, il ferme la porte à clé, quoi. Et alors on se dit, oh, Amadou, il doit avoir hyper peur à ce moment-là et tout. Et puis il part dans le mauvais sens, etc. Mais cet enfant était très, très, très beau dans ce que... On voyait tout dans son visage, il se disait, ah ouais, ça marche comme ça. Il y avait des petites filles qui venaient faire un câlin à Bertrand, etc. Moi, je me disais, bah oui, il doit être paumé, quoi. Voilà, il arrive dans une école, il sait pas du tout quelle va être sa place, comment ça va se passer, et tout ça. Voilà.
C'est vraiment un univers en soi, une petite société. Chaque école, alors vous n'êtes pas du tout la première, évidemment, à filmer l'école. Il y a même un grand documentariste qui doit vous intéresser. J'ai pas pris un extrait parce que ça nous dirait rien. C'est en anglais, d'un documentaire de Frédéric Wiseman. J'ai pris un extrait de Ma classe au cinéma, donc sur le film High School, donc qui date de... Ben, on va vous le dire dans l'extrait.
Sitting in the morning sun.
Tourné au printemps 1968 dans le lycée américain Northeast à Philadelphie, High School se présente comme un film sur n'importe quel lycée de l'époque, sans localisation ni commentaire. C'est l'une des particularités du cinéma de Frédéric Wiseman que de filmer dans un lieu sans poser des questions à ceux qui y vivent et travaillent et sans commenter ce qu'il a filmé en voix off. Par le montage, il fait se dérouler une journée type, de l'arrivée au lycée, à la cantine où conversent des professeurs, de cours en cours, de la littérature à l'éducation physique. L'enchaînement des séquences masque en fait une structure plus complexe qu'un simple catalogue. Peu à peu, les relations entre les enseignants, la direction ou les parents d'un côté et les jeunes gens de l'autre semblent relever de situations semblables. Les adolescents doivent non pas tant travailler qu'écouter, obéir, répéter.
Claire Simon, qu'est-ce qui vous lie à la fois dans la forme, mais aussi dans le fond, et peut-être qu'il y a des choses qui ne vous lient pas plus, à cette école de 1968, au travail de Frédéric Wiseman?
Moi, j'aime beaucoup Frédéric Wiseman et j'ai la chance de le connaître. C'est un homme merveilleux et très généreux, un immense cinéaste, vraiment. En fait, Apprendre est le cousin germain d'un autre film de Wiseman qui s'appelle High School 2, qui était une école, comment dire, de recherche, quoi, à Harlem. Et il y a les mêmes scènes d'engueulade du petit garçon comme Bertrand. Il y a beaucoup de choses qui sont extrêmement proches. C'est très troublant. Alors moi, je suis... Peut-être que ce film ressemble plus à un film de Wiseman, je ne sais pas. Wiseman, il fait le son. voyez. Moi, je fais l'image. Et je travaille avec, Pierre Bompi, qui est un merveilleux ingénieur du son, qui comprend comment je filme et qui me permet d'entendre quand des enfants chuchotent, etc. Moi, je ne peux tourner qu'avec un casque sur les oreilles que quand j'entends. Je peux pas tourner si j'entends pas. Et Weisman, il a une autre méthode, mais c'est un grand inventeur. C'est-à-dire que lui, il fait des films depuis le début où il n'y a pas, évidemment pas de scénario, où tout est improvisé, mais où il n'y a pas d'interview, où il n'y a pas de personnage principal.
Bah, ça, c'est aussi le cas d'apprendre.
Oui, et où il n'y a pas... où on voit ce qui se passe. Voilà. Mmh. Et il a fait tout un tas de chefs-d'œuvre et je vais d'ailleurs présenter Aspen le 3 février à Chaillot, qui est un film extrêmement comique. D'accord. Sur une station de ski de luxe. Oui. Aux États-Unis, et c'est à hurler de rire. Mais
Je vais venir.
J'aime beaucoup Weisman parce que voilà, lui il dit qu'il fait de la fiction d'une certaine manière, puisque quand il a une séquence qui dure 2 heures, il en fait 8 minutes, donc il travaille le contenu, le montage. Moi je suis plus passionnée par le tournage, c'est-à-dire que pour moi tourner, c'est vraiment le moment le plus fort et où je suis totalement engagée, en général assez désespérée parce que j'ai l'impression de tout rater, mais c'est ce qui compte énormément pour moi. Évidemment, ensuite, je monte avec Luc Forveille, qui est un monteur avec qui je travaille depuis longtemps, et on aime beaucoup ce travail de montage, mais et vous auriez vu mes rushs, c'est une horreur, parce que je coupe pas et je tourne d'un côté à l'autre, etc. Mais disons que arriver à raconter une séance de classe, une récré, un jeu des enfants, pour moi, c'est le défi le plus grand.
On va reparler de pédagogie. Alors, on était parti aux États-Unis. J'aurais qu'on aille en Union soviétique, enfin plus ou moins, parce que le nom de l'école, c'est Makarenko, c'est un immense pédagogue russe. On pourrait dire qu'il fait partie de l'éducation nouvelle, qui est vraiment une constellation. Donc, c'est pas des gens qui travaillaient ensemble. Il a pas travaillé avec Maria Montessori, mais en URSS, il a monté des écoles avec une pédagogie innovante. Est-ce que vous vous intéressez, Bertrand Kiné, au travail de ces pédagogues? Et pourquoi? Oui, parce qu'en fait, ça a toute une histoire. C'est non, vous êtes dans une ville communiste,
absolument.
Qui est vraiment l'héritière de la banlieue rouge, avec ce nom-là. En quoi ça marque aussi l'histoire de l'école? Tous les noms ne sont pas déterminants, évidemment, mais ça m'a intéressé le fait que ce soit un nom de pédagogue.
Effectivement, on fête les 100 ans d'une mairie communiste cette année, mais c'est vrai que c'est assez étonnant. C'est un Ukrainien. D'ailleurs, même si c'était ici, on l'a toujours considéré comme un soviétique. Et par un raccourci un peu rapide, évidemment, on a considéré qu'il était russe. Et je pense que j'ai lu, quand j'étais à l'école normale, c'est pour vous dire, poème pédagogique qu'il a écrit, et qui raconte un peu cette expérience. Je pense que c'est pas ce qui nous a guidés spécifiquement, même si on imagine qu'à l'origine, le choix du nom de l'école, c'était pour notamment pour ces raisons-là. Et après, il y a une petite anecdote amusante. Il y a des gens qui travaillent dans le pétrole, qui sont venus nous voir il y a quelques années et qui voulaient qu'on fasse un partenariat et qu'ils nous ont dit, il n'y a pas de souci, on peut emmener tous vos élèves dans une île, dans une ville du sud de la Russie pour faire un petit séjour et puis faire une sorte de partenariat. On ne savait pas trop ce que c'était. C'était très, très étrange. Et quand même, je leur ai posé la question. Ils m'ont dit, mais on est venu là parce que c'est Makarenko. Parce que c'était un nom russe et c'est pour ça qu'on est venu. Voilà. En soi, ça n'a pas influencé notre pédagogie. C'est plutôt, comme le disait Estelle, M. Boimard ou d'autres. Mais c'est intéressant.
Mais il y a quelque chose d'étrange avec ce nom d'école qui est un monsieur, qui est ukrainien, mais du RSS, et que personne ne connaît aujourd'hui, dans une banlieue très mélangée, avec un public populaire, des enfants issus de nombreux
nombreuses migrations. C'est ça la banlieue aujourd'hui. C'est aussi ce que raconte le film. Ce que sont les enfants d'aujourd'hui. On dit souvent que c'est plus difficile d'enseigner aujourd'hui. D'ailleurs, on parle souvent du niveau de l'école qui n'est pas très, très bon. Est-ce que c'est bien aussi de pouvoir envoyer un miroir, enfin une image à travers ce miroir, qui est peut-être ce documentaire, plus positive, Estelle Lavaux?
Oui. Alors après, là, on est sur l'école élémentaire. Nous, premier degré, c'est sûr que la violence, si elle existe, elle est moindre. Elle est moindre que dans le second degré. Je pense que l'école...
Quand on parle de niveau scolaire, pardonnez-moi, mais ça concerne pour le niveau aussi scolaire, oui, oui. L'école élémentaire, donc primaire.
Oui, oui. Alors après, la difficulté d'enseignement, au contraire, je pense que elle est réduite par l'aspect un peu... challenge d'aider ces enfants qui en ont besoin. Pour moi, il n'y a pas plus de difficultés. Au contraire, il y a plus de plaisir à l'apprentissage, il y a plus de plaisir à la pédagogie nouvelle, effectivement. On met en place des choses assez innovante, je sais pas, parce que je pense que ça existe depuis longtemps et que c'est mis en place un peu partout, mais je pense aux récréations, par exemple, qu'on essaye de régler par le biais des messages clairs, de la médiation. Les enfants, les élèves, ils sont formés par les médiateurs de la ville en ce moment, par exemple. Enfin, c'est des choses qui existent un peu partout. C'est des choses qui existent dans l'école publique. C'est pas forcément plus difficile qu'ailleurs. C'est même un peu plus facile, en tout cas, par rapport aux familles, parce qu'on a des familles avec qui on travaille très facilement, pour qui l'école est parfois la porte de sortie la plus importante pour les enfants, pour aller plus loin. Donc, on est soutenus. On est des enseignants plutôt soutenus. Pas par tout le monde. Je ne parle pas de politique, mais par les familles.
Par les familles qui vous suivent. Alors, ce n'est pas forcément montré dans le film, mais vous l'avez dit, Claire Simon, on mange ensemble dans la salle des professeurs. C'est important d'apprendre ensemble, c'est-à-dire que vous réalisiez un travail d'équipe. C'est très difficile à faire comme ça au quotidien, de mener un travail collectif à l'école.
Alors, oui, après c'est fait par via les réunions de cycles, on a plusieurs cycles. Après le fait d'être ensemble, nous on vit ensemble un peu comme une grande famille. Moi la première fois que j'ai vu le documentaire de Claire, j'ai dit à Claire, j'ai l'impression de voir un film de famille. Donc effectivement, on est assez cohérents et collectifs les uns avec les autres. Je sais pas Bertrand
C'est sûr qu'effectivement, une des particularités de ces écoles, c'est qu'il faut que l'équipe soit soudée et aille dans le même sens. Parce qu'effectivement, probablement qu'il y a un manque de code, de cadre, il y a un tas de choses qui sont manquantes chez ces enfants qui cherchent à l'école et qu'on n'a pas le choix, on est obligé d'aller un peu dans le même sens. Après, on a fait des choix aussi. On a fait des choix pédagogiques forts par rapport à la médiation culturelle, mais aussi... Ce que nous, on essaye de faire, c'est aussi de les faire sortir de l'école, paradoxalement. C'est-à-dire qu'on a besoin que ces enfants qui n'ont pas ça à la maison puissent passer le périphérique, parce qu'on est quand même juste à côté. Et la plupart, une fois, j'ai fait une sortie avec des CE2, où il y avait seulement un tiers des enfants qui avaient pris le métro, alors qu'ils étaient en CE2. Et c'est quand même à 500 mètres du métro. Donc on a besoin de leur faire découvrir le monde. C'est aussi par ce biais, et par les projets qu'on mène, qu'on va réussir à faire en sorte que ces enfants soient en capacité après d'en parler, de travailler ensemble. Et nous, ça nous motive, bien entendu, et ça nous soude, évidemment.
Après, je vais terminer après, mais une bonne direction, là c'est de la pub pour Bertrand, mais ça aide aussi à créer cette cohésion. Il y a des équipes qui dysfonctionnent, et je pense que ça... Je pense que les enfants, les élèves en pâtissent un petit peu aussi.
Et c'est un sujet très politique. Vous avez fait une très courte référence, mais évidemment, le statut de directeur, il est souvent mis sur le grill par des politiques en disant que il faudrait peut-être le réformer pour avoir quelque chose de plus vertical. Je résume, mais c'est un peu l'idée, et vous défendez, donc on l'entend
Moi,
très bien.
Je défends le contraire.
Alors, on a dit, Claire Simon, vous vouliez juste vous cantonner à la cour de récréation, vous êtes rentrée dans les classes, et vous êtes allée en sortie aussi, on parlait de Paris, oui. Et une très très belle sortie, vous êtes là sur un bateau mouche. Alors c'est vrai que c'est toujours une sortie super sympa à faire avec les élèves, si on a la chance de pouvoir y participer. Moi j'ai fait en moyenne section avec la classe de ma fille. Et donc il y a cette sortie à Paris, qui est très, très chouette. Et puis il y a aussi la venue d'élèves parisiens de l'école alsacienne. Donc c'est Paris qui vient dans la banlieue. C'est un projet tout à fait singulier, que je ne connaissais pas et qui m'a surprise en regardant le film. Est-ce que vous êtes allé plus loin que ce à quoi vous attendiez? Et qu'est-ce que vous avez pu, à votre avis, montrer dans ces scènes, à la fois la petite sortie, enfin la grande sortie sur le bateau mouche et à la fois la venue des élèves de l'école alsacienne? Alors je précise pour ceux qui ne savent peut-être pas, c'est une école d'un quartier huppé de Paris, privé et très sélective.
Eh bien, ce que je trouvais génial dans les bateaux mouches, etc., la balade dans Paris, c'est que justement, ces enfants, ils ne connaissent pas Paris. Et c'est extraordinaire. Et on voyait tous les monuments et tout. Estelle disait, regarde, c'est Notre-Dame, etc. Et les enfants, ils regardaient, bien sûr, ils étaient... Mais quand même... C'est surtout les passages sous les ponts qui les ont beaucoup, beaucoup enthousiasmés.
Avec de grands cris.
Avec de grands cris. Et moi, je trouvais ça très, très beau, cette histoire que, voilà, ils sont à 1 kilomètre de Paris et ils découvrent Paris. Voilà. Après, l'école alsacienne, Bertrand m'avait parlé de ce partenariat qui existe depuis 3 ans. C'est ça, 3 ans, voilà, et qui a existé avec les classes CHAM, donc les classes de musique de l'école alsacienne, et qui fait suite à la venue d'un musicien à Makarenko. Et évidemment, bon, moi, ça m'a fait rire tout de suite, si vous voulez. Quand j'ai entendu l'appel avec les prénoms, c'est très drôle. Et puis voilà, mais j'ai tout filmé. On en a une version plus raccourcie qui est juste sur le moment où les enfants ont travaillé la truite de Schubert et jouent avec les élèves CHAM, et où voilà.
Elle est hyper frappante, cette scène. On mesure la distance sociale.
Voilà,
c'est fou. C'est pas ça. Juste le fait de s'appeler. Olympe ou Mohamed, c'est il y a des enfants qui pratiquent la musique apparemment depuis très
depuis
longtemps,
depuis le de CP intensive. Alors que là quand même il faut dire, moi c'est que chaque enfant de Makarenko pouvait emmener l'instrument chez lui, travailler, etc. Bon, ce qu'il y a, c'est que sans doute cette musique, elle est écoutée chez peu de parents, quoi. Et mais il faut dire quand même qu'il y en a 3 qui se sont inscrits au conservatoire à la suite du partenariat pour ces classes de CM1. Mais moi, je voyais autre chose. Je sais que Bertrand est hyper enchanté de ce partenariat. Moi, je voyais aussi quelque chose que je trouvais dur pour les enfants, parce que moi, je me voyais comme si j'étais un enfant de Makarenko. Et quand j'entendais la jeune fille qui joue si bien du Chopin, je me sentais minable, quoi.
Et en même temps, l'école, c'est aussi apprendre que la différence existe. Donc, quelque part, c'est aussi normal qu'ils...
Oui, ils étaient tous hyper impressionnés en même temps par le talent de la jeune fille qui joue comme ça, qui n'a pas révisé et tout. Et moi, j'étais fascinée par ses doigts. Voilà. C'est très important qu'ils connaissent un autre monde de part et d'autre.
Je ne suis pas sûr qu'ils aient été tant impressionnés que ça, bizarrement. Parce qu'on voit un petit garçon qui regarde comme ça, on lui a posé la question, qui regarde la jeune fille qui joue du piano, on lui a posé la question, c'est pas qu'ils s'en fichaient, mais pas plus que ça. Après, ce que je trouve, c'est que ça leur a quand même beaucoup, beaucoup apporté, cette collaboration, parce qu'ils ont été plongés grâce au talent lyrique. C'est une compagnie de chant baroque international et qui fait de l'opéra, etc. Ils ont été plongés aussi dans un univers. D'ailleurs, le Christophe Rousset, qui est quand même un chef d'orchestre mondialement connu, est venu avec son clavecin à Makarenko. Il l'a posé dans un coin, dans une classe. Et notre ami qui veut toujours savoir quelle est la religion des autres, je ne sais pas si vous vous souvenez.
Oui, on va en reparler.
On va en reparler. Il est venu, puis il a commencé à titiller le clavecin comme ça, ding ding, avec son doigt, et il ne s'est pas énervé. Ce que je trouve intéressant, c'est effectivement la première réflexion qu'on se fait quand on les voit, ou quand on commence à énoncer les noms, c'est de se dire, effectivement, c'est exactement ce que vous avez dit, il y a un gap, il y a un fossé qui est quand même énorme. et je suppose que ça sera une des questions qui va suivre, mais dans l'autre exercice, parce qu'il y a une autre scène qui fait écho à ça, c'est celle de cette scène sur le débat sur la religion, c'est une façon que nous, on utilise, ou on cherche, ou on travaille, pour contourner ces obstacles de couches qui n'ont pas été mises depuis qu'ils sont tout petits sur nos élèves, de culture, de référence, de progrès, etc.
Eh ben, hyper intéressant, hein, toujours. On va passer à cette scène où on parle de religion qui commence, en fait, elle est assez longue. On va commencer par la lecture, c'est un extrait du Tour du Monde en 80 jours. Et puis, on va passer aux réflexions des élèves. Claire Simon, je me suis permise de, avec Perret Legras, de rapprocher un peu deux moments pour qu'on entende deux réactions assez différentes et puis on va commenter.
À l'époque, dans certaines pratiques de la religion hindoue, quand un raja meurt, donc un raja c'est un souverain, une sorte de roi d'une province, quand un raja meurt, sa femme est brûlée avec lui. Question difficile, doit-on systématiquement suivre les coutumes religieuses? Et selon vous, est-ce qu'il est possible d'être croyant et de ne pas respecter certaines coutumes religieuses?
Le débat il est haram. Depuis quand un musulman va faire ce débat, les gars? Non, il est haram le débat.
C'est quoi?
Doit-on systématiquement suivre les coutumes religieuses? C'est mieux de suivre. C'est mieux de suivre ta religion. Que. C'est mieux. Si tu meurs, bah, c'est lui qui a décidé. Hein.
Et Olive alors?
Elle n'a rien demandé, elle n'a pas demandé que son mari meure. Ça se fait pas. Et selon toi, est-il possible d'être croyant et de ne pas respecter certaines coutumes religieuses? Ça dépend des personnes. Il y a des personnes qui vont ne pas respecter et il y en a d'autres.
Oui, on vit
ça. Mais tout en étant croyant.
Comme oui.
Pas facile, hein, ce débat autour de la religion, de ce que représente le fait de croire et de respecter la religion. C'est assez frappant aussi, évidemment, on est à la radio, mais je vous le raconte, c'est que la petite fille qui dit c'est haram et tout, elle est, c'est un petit bout de chou trop mignon à qui on s'entendrait pas, voilà, on s'attendrait pas à entendre des choses comme ça. C'était important pour vous, Claire Simon, et pourquoi et comment vous avez voulu le faire, de montrer aussi ce que fait l'école de la République, donc, bah, pour aborder des sujets compliqués, hein, dont on parle souvent ici, la laïcité, le respect de l'autre, l'esprit critique.
Ah oui, et j'ai filmé plusieurs médiations culturelles, enfin plusieurs avec cette professeure, Élodie, ou avec Morgane. C'était passionnant. Et toujours, donc, il y avait, on met 4 élèves, dont un rapporteur, 4 ou 5. Il faut que les élèves écrivent, qu'ils ont bien répondu à des questions.
Groupes.
Oui, répondent à des questions pour voir s'ils ont bien compris. Et ensuite, c'est le débat. C'est ce que dit Bertrand souvent, c'est-à-dire apprendre aux enfants à réfléchir, qu'ils disent ce qu'ils pensent, qu'ils discutent entre eux, qu'il y en ait un qui discute, qui est le rapporteur avec les autres. Moi, ce que j'adore dans cette scène, c'est qu'elle est très très drôle, quoi. Et qu'à la fin, alors bon, d'abord c'est la religion hindoue, en moins de 10 secondes c'est l'islam. Hein. C'est, voilà. Et d'ailleurs, Wassim dit, si tu manges du porc, tu deviens chrétien, automatiquement. C'est, voilà. Et c'est très très drôle parce que tout le monde finit par rigoler, quoi. Et donc, la tension très grande de « Oh, il faut pas parler de l'islam. Oh, il faut pas parler de la religion. Oh, ce garçon va être fiché S, c'est sûr, etc. » tombe complètement dans la discussion entre les enfants. Et d'ailleurs, les filles disent toutes, elles disent « ça dépend, on n'est pas obligé, ça dépend ». Et il y en a une qui dit un truc magnifique, elle dit « Il y a des gens qui ne croient pas et qui prient, et il y a des gens qui ne prient pas et qui croient ». Et je trouve ça magnifique. Et donc, tout d'un coup, il y a de la complexité qui s'installe, et quand Wassim dit qu'il fait 14 prières par jour, Khadija, qui a dit « Wallah, il est haram ce débat », est morte de rire. Elle est 14 prières par jour, mais tu es fou, etc. Donc, tout d'un coup, quelque chose se dénoue, oui. Qui n'est pas du tout de l'ordre de ce qu'on pourrait... Enfin, je veux dire, tout d'un coup, chacun a discuté, et s'il y en a qui sont... absolument pour tout obéir absolument à toutes les injonctions religieuses, ils savent que d'autres pensent pas comme ça et qu'ils ont peut-être raison quand même. Et donc c'est très intéressant, enfin c'est formidable, je trouve. Et dans l'autre séquence qui est sur Orphée qui s'est retourné,
c'est le livre de Muriel Sack.
Voilà, sur Artémis.
Oui.
Et donc, toute la question qui arrive justement après l'école alsacienne, où peut-être la confiance en soi a été un peu entamée, éventuellement, en tout cas du point de vue de la réalisatrice, la professeure pose la question de la confiance en soi. Et on voit une jeune fille, enfin une fille de CM2, qui nous décline toute la généalogie d'Artémis, extraordinaire, quoi. Enfin, Hadès et Perséphone, etc. Et pourquoi? Et voilà, c'est magnifique. Moi, j'ai trouvé ça extrêmement beau. Et en même temps, toute la question de la confiance en soi est une question très importante, absolument vitale pour apprendre.
Vous vouliez rajouter quelque chose?
Je voulais compléter, effectivement. Ce travail qui est fait au quotidien, notamment par les CM1, c'est vraiment un travail, c'est vraiment apprendre à penser. Et quand je disais tout à l'heure que c'était un moyen de contourner le fait qu'il n'ait pas accumulé au cours des années tous les savoirs de ces fameux élèves de l'école alsacienne.
Ou d'ailleurs. Dans Paris. Il y a des très bonnes écoles publiques.
De l'école
et
en général.
Et avec des publics très différents.
Tout à fait. On leur donne là un outil qui est extrêmement important, c'est-à-dire la capacité à s'exprimer sur tous les sujets. Parce qu'en fait, au quotidien, au travers du tour du monde en 80 jours ou de toute la mythologie, évidemment, on va traiter tout, l'amour, la traîtrise, l'amitié, la mort, enfin, on va traiter de tous les sujets. Ce qui est intéressant, c'est comme c'est basé sur un petit texte court qu'on vient de lire, ils peuvent s'appuyer sur ce texte s'ils n'ont pas d'exemple. Et ensuite donner leur avis. Ils ont un débat entre eux, on les oblige à parler entre eux, on les oblige à s'exprimer. Ce qu'on espère au bout de toutes ces années, parce qu'ils font au moins les deux dernières années, c'est que quoi qu'il arrive, même s'ils n'ont pas les bagages, à un moment donné, ils ne vont pas se retrouver au fond d'une classe, je pense au collège, puisque c'est un des éléments, ils ne vont pas se retrouver à perturber. Ils vont s'exprimer.
J'ai dit en plaisantant, il y a de très bonnes écoles publiques. Est-ce que vous pensez que vous êtes directeur d'une très bonne école publique? Est-ce que cette école est évitée par certaines populations d'Ivry? Est-ce que ce lien que vous cherchez à faire vivre, ce lien républicain, si on veut utiliser les grands mots, ce lien tout court, vous réussissez complètement à le faire? Parce que je ne veux pas qu'on donne une vision complètement enchantée. Le commentaire, on l'a dit, il est génial. Hein, mais...
Non, je pense que alors on n'a pas trop d'évitement. En tous les cas, en élémentaire, on va avoir un peu d'évitement au collège. Donc nous, notre travail, ça va être de convaincre que le collège est intéressant.
Qui vont pas à l'école.
Qui vont pas partir dans le privé ou à Paris.
Du secteur, Estelle Lavaux, vous avez marmonné quelque chose.
Non. À l'entrée au collège, il y a des départs, quoi.
Oui.
En fait, les bons élèves, souvent, c'est vrai, partent dans le privé, pour pas le citer. Mais pour revenir juste sur la médiation culturelle, ce qui est important aussi, c'est de... Ça permet aux élèves d'avoir une culture commune, parce qu'en fait, ce sont des textes qui sont... C'est pas choisi au hasard, c'est-à-dire qu'on fait pas ça avec n'importe quel texte, quoi. On choisit pas un livre dans la bibliothèque, alors vous avez compris de quoi on parle. Non, ce sont des textes, effectivement, qui ont une référence culturelle importante et qui pourront retrouver plus tard, effectivement, même au collège, ils ne seront pas perdus. Ils auront leur place parmi les autres.
La mythologie grecque et donc romaine, c'est un bon socle et ça s'affirme.
Oui, puis ils aiment.
Oui, et ça plaît beaucoup aux enfants, aux parents et puis ça marche hein, dans les librairies. On parlait de Muriel Sack, elle a publié plusieurs grands feuilletons comme ça qui sont très populaires dans les bibliothèques des écoles, mais aussi dans les foyers. On a parlé du collège. J'ai vu un film qui s'appelle Château Rouge, qui est sorti le 22 janvier dernier, réalisé par Hélène Milano. Je vous en parle parce que je trouve que c'est intéressant de mettre la primaire et le collège en regard. Ça se passe donc à Clémenceau, qui est situé dans un quartier très très populaire de Paris. La Goutte d'Or, ici se joue l'orientation et les premiers renoncements pour certains des élèves, pas tous, mais là on va s'intéresser aux adolescents en difficulté. C'est un collège REP+, et les élèves prennent douloureusement conscience de ce qui ne va peut-être pas être possible dans la suite de leur scolarité.
Bonjour, c'est la vice-présidente du collège Clémenceau, c'est Yacine. Pourquoi t'es pas au collège, Yacine ?
Au moment où ils sont à peine dans la découverte d'eux-mêmes, du monde, ils sortent de l'enfance, ils sont dans le papillon qui sort, voilà, qui n'est plus chrysalide, et ben ce moment-là, il est chopé par cette injonction qui est d'une grande violence systémique qui s'abat sur les enfants et sur les adultes. Parce qu'en fait, ils se retrouvent sous pression, ce qui n'est pas le cas dans le primaire, pour répondre à une injonction du système, que chacun trouve une place. Et si un enfant trouve sa place parce qu'il a décidé qu'il allait faire cuisinier, en général, ces enfants-là, ils sont en réussite, c'est un désir et ils l'épanouissent. Mais quand ce sont des choix par défaut, bien, ça fabrique de la colère, ça fabrique de la désillusion et ça fabrique de la blessure, en fait. Et les adultes qui sont absolument impeccables, extraordinaires dans leur engagement, ils font en sorte qu'ils puissent devenir résilients avec cette violence du système qui s'abat sur eux.
Comparativement à toutes ces questions, il y a peu de scènes, mais il y en a quand même, elles sont importantes, de classe, de pédagogie, d'apprentissage, avec cette prof de français extraordinaire, Claire Delabie, qui leur parle de Jules Vallès, qui leur parle de l'autobiographie, qui leur parle aussi de peinture. En troisième, on passe le brevet, elle leur parle de Francis Bacon, et les élèves sont tout ouïes, ils travaillent, ils comprennent, ils avancent. C'est important de montrer ça.
Ce qui est important, c'est de montrer que l'exigence n'a jamais reculé et que c'est aussi le travail d'un collectif. Et ça, c'est important dans le film parce que il y a tout ce qui se passe dans effectivement les apprentissages, avec tous les blocages qui peuvent être liés à la confiance, qui peuvent être liés à des parcours compliqués. Et puis, il y a aussi tout le travail de l'équipe éducative qui travaille notamment comment dénouer tous les empêchements à apprendre, que ce soit la situation sociale, la fragilité économique, la fragilité familiale. Et en fait, ce travail d'équipe, c'est ce qui fait la force aussi de cette résistance à cette violence.
Le mot est grandir. Grandir.
J'ai un peu de regret de grandir, mais en vrai, je me demande ce que ça fait d'être grand.
Être raisonnable.
Qui dit grandir, dit travail.
C'est faire les bons choix.
Moi, mon projet, c'était de raconter cet accompagnement, cet engagement au quotidien, cette bienveillance, cette exigence de personnes qui ne baissent jamais les bras, qui sont vraiment extrêmement combatifs pour lutter contre tous les déterminismes sociaux dont on sait depuis 40 ans que, en fait, l'école reproduit les inégalités. Donc, ce sont des vrais résistants. Pour autant, ce que traversent les jeunes dans leur compréhension de ce système, dans la compréhension de ce qui se joue pour eux, c'était extrêmement important d'ouvrir justement cette parole.
C'est très frappant dans le film, et moi c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup plu, c'est d'écouter les élèves qui parlent comme ça, s'adressent à vous, et ils nous disent ce qu'ils ressentent, comment ils analysent la situation. C'est hyper enrichissant de les écouter comme ça et de les entendre. J'aimerais qu'on revienne un peu sur ce dispositif où vous prenez vraiment le temps de les écouter.
Mais c'est-à-dire que ça, c'est une réflexion que je mène depuis longtemps par rapport à la doxa documentariste où effectivement, ce que je fais là n'est pas tout à fait dans les clous de ce qu'il convient de faire. L'esthétique, c'est politique. Et quand on choisit de les montrer, que le spectateur les regarde, les entende, dans une temporalité qui est vraiment le déploiement de leur pensée, que l'accès à la profondeur soit possible, tout ça me tenait beaucoup à cœur. Et au départ, c'était pas forcément dans le projet, puisque j'avais un dispositif de cinéma direct et un dispositif où on se retrouvait tous les mardis pour échanger des textes, des improvisations, etc. Pour être en relation justement avec toutes ces prémices adolescents. Et ça, cette parole-là, elle a commencé à me manquer très fort. Et même s'ils sont très jeunes, en tant que sujet, ils ont quelque chose à dire sur ce qu'ils vivent et comment ils perçoivent ce système.
France Culture. Être et savoir. Louise Touret.
Alors, comment montrer ce qui se joue à l'école? C'est la question qu'on se pose ce soir avec vous, Claire Simon. C'est finalement aussi la question que j'ai posée à Hélène Milano. Je voulais savoir ce que vous inspirez cette interview, ce qu'elle dit aussi du fait que l'esthétique soit politique. Je pense que ça vous, forcément, ça doit vous parler.
Bien sûr. Je trouve le film très beau, son film, Château Rouge. Et surtout, ce qui m'a beaucoup émue, c'est cette désillusion des élèves qui vont passer le brevet, qui doivent choisir où aller, que tout d'un coup, ils se rendent compte, c'est aller trop vite. Certains ont un peu fait les malins pendant leurs années de collège, et tout d'un coup, le couperet tombe, et tout d'un coup, toute perspective d'apprendre toutes sortes de choses s'arrête. Et là, c'est très très violent, quoi. Il y a des enfants qui vont aller dans des lycées qu'ils ont choisis, ça va aller. Mais on voit cette désillusion, et tout d'un coup, on ressent la blessure qu'ils ressentent, qui est, moi, je suis un pauvre arabe, donc ou je suis un pauvre africain, et donc,
ou un pauvre, tout simplement.
Ou un pauvre, tout simplement. Et donc moi, je vais aller. Du côté des trucs où on n'apprend plus rien, quoi. Plus rien du grand monde.
Ou que je n'ai pas choisi.
Que je n'ai pas choisi. Mmh. Et c'est très, très émouvant, ça. C'est vraiment... Après, il y a quelque chose auquel j'adhère complètement, c'est que moi, ce que j'ai ressenti à Makarenko, c'est le collectif. C'est-à-dire, comme elle le montre d'ailleurs dans son film, c'est que c'est une école où le collectif prime sur tout. C'est-à-dire toujours les choses se passent de façon collective. Évidemment, quand le carnaval se déplace dans la cité...
Ça, c'est dans Apprendre.
Voilà, dans mon film. Tout d'un coup, on comprend que la cité se construit sur l'école. C'est-à-dire que c'est fondamental. Et que là, je vais faire un petit truc sur les politiques. Il faut que les politiques se rendent compte que sans école, il n'y a pas de ville, il n'y a pas de cité, que c'est ce qu'il y a de plus important, que si on veut pas que les enfants souffrent et deviennent fous plus tard, il faut mettre des milliards sur l'école, sur l'éducation nationale. Parce que c'est ce qu'il y a de plus important avec l'hôpital, quoi. Je veux dire, c'est dingue. C'est quand même ce qu'il y a de plus important. Il faut que l'aide sociale à l'enfance, que... Voilà, c'est les trucs... Vraiment, je veux dire,
l'école
Start-up Nation, qu'elle aille se coucher, quoi. Je veux dire, franchement, il faut juste mettre de l'argent sur l'éducation et sur la protection des enfants et sur la santé. C'est pas très compliqué, hein. Oui. Moi, il peut m'appeler Bayrou. Je veux dire, il n'y a pas de problème.
Écoutez, j'espère qu'il écoute l'émission. Je voulais vous faire parler, enfin, si vous voulez aussi enchaîner sur ce qu'a dit Claire Simon, Bertrand Quinet, ne vous gênez pas, mais sur cette différence entre l'école élémentaire, donc les grands hein, du primaire, parce que le primaire, ça compte aussi pour la maternelle est aussi dans le primaire, entre ce moment où on apprend tous ensemble et où l'avenir est ouvert, et ce moment du collège où on grandit et tout à coup ça se referme. Et c'est vrai que on porte pas les mêmes discours sur ce qui devrait quand même être la même école en général, qui change du tout au tout parce que il y a une affaire de tri et d'orientation.
Ce qu'on voit dans le film, effectivement, c'est que quand même, notamment en élémentaire, c'est assez flagrant, mais de ce que disait, ça m'a interpellé lorsque Claire a dit que tout à coup, le couperet tombait en troisième. Je crois qu'on on comprend dans ce film que les enfants ont tous envie d'apprendre, en réalité. En réalité, je pense que ça n'existe pas les enfants qui ne veulent pas, qui ne sont pas intéressés par les choses. C'est parce qu'il y a des choses qui les perturbent et sur un moment un peu court ou plus ou moins court, ils auront peut-être moins d'attention, etc. Il y a des choses qu'on peut régler. Et après, c'est vrai que quand on voit en ce moment ce qui se passe un peu de par le monde, on comprend qu'il faut mettre le paquet sur l'éducation, ça c'est sûr. Effectivement, on voit par exemple dans ces classes le temps que peuvent consacrer les enseignants, je pense de CP puisque j'ai ma collègue à côté de moi, à chaque enfant pour du coup répondre au mieux aux attentes des uns et des autres, aux réponses, etc., les corriger, etc. C'est parce qu'il y a un faible effectif.
Mais alors... Oui, voilà. Vraie question, parce que qu'est-ce qui fait qu'on a parfois l'impression qu'ils apprennent en primaire qu'il y a une transmission, en tout cas, que quelque chose passe et que
ça ne passe pas après.
Et que bah, parfois, ça ne passe pas après, mais plus encore. C'est-à-dire qu'on a l'impression que ces acquis sont si fragiles qu'on ne les retrouve même pas au collège.
Alors après, nous, on a des élèves, même en CP, qui ont un niveau extrêmement faible et qui vont quand même finir par passer dans les classes supérieures et qui auront effectivement un niveau...
Des lacunes.
Des lacunes qui vont traîner jusqu'au collège. Pour revenir rapidement, mais très rapidement, sur ce qu'a dit Bertrand Quinet, on a des bonnes conditions en réseau d'éducation prioritaire, on a des classes dédoublées qu'il faut absolument garder, voire renforcer. Et là, je vais aussi rebondir sur ce qu'il disait Claire Simon, l'éducation, c'est pas le moment de la laisser tomber, donc il faut mettre le paquet.
Et on termine l'émission avec la scène de fin. Cette chanson, c'est la chanson star du film qui émeut tout le monde. Il paraît que la chorale de l'école la rechante dans diverses occasions, des festivals, et je comprends pourquoi. C'est très très enthousiasmant, on l'entend deux fois dans le film. Claire Simon, je voulais vraiment terminer là-dessus. C'est un film qui est très émouvant. J'ai pleuré à de nombreuses reprises, et je pense que je ne suis pas la seule. Pas seulement parce que cette école ressemble à la mienne, je pense que c'est vraiment quelque chose qui nous prend aux tripes. Est-ce que c'est ce que vous vouliez faire? Et à votre avis, pourquoi est-ce qu'on est aussi ému?
Parce qu'on est tous des enfants, qu'on aime, qu'on a envie d'apprendre, qu'on a envie que ça soit... que cette relation des enfants entre eux et des maîtres et des élèves soit heureuse, soit belle, parce que c'est le monde qui... Le maître, il ouvre sur le monde. C'est extrêmement beau, quoi. Moi, j'ai retrouvé mon enfance en filmant l'école Makarenko. J'étais dans une classe unique, dans un petit village du Var. Et la maîtresse, elle ouvrait le monde. Et elle m'a permis de me sentir... enracinés à cet endroit, alors que mes parents n'étaient pas de là, qu'ils étaient tout à fait différents, etc. Et c'est... Moi, je me souviens que je me disais « Quelle chance j'ai d'être à l'école !» C'était dingue de me dire ça. Mais on voit qu'il y a plein d'enfants à Makarenko qui se disent ça. C'est trop, trop bien, quoi. Et c'est ridicule de... Je veux pas du tout faire une hagiographie de cette école, etc. Mais... que le monde s'ouvre à chaque seconde un peu plus pour chaque enfant, c'est vraiment très très beau, quoi. Et c'est ça qui fait du mal à la fin de Château Rouge, quand on voit que le monde se referme. Et c'est profondément injuste, parce que tous les enfants ont cette ouverture, ce désir. Il n'y a qu'à voir quand le visage d'un enfant qui répond pas bien, qui est tellement inquiet. Ah ouais, préfecture, c'est pas un adjectif, merde. Voilà.
Merci, merci beaucoup Claire Simon, merci Bertrand Quinet, merci Estelle Lavaux. Je rappelle que Apprendre sort le mercredi 29 janvier. J'espère qu'on pourra voir longtemps ce film, en reparler ensemble. Chers auditeurs, je suis sûre que vous aurez envie d'en parler avec vos amis et votre famille. Et je vous souhaite à tous une excellente soirée.